Merci de passer la soirée avec nous. On est ensemble en direct jusqu'à minuit et sans interruption. On revient sur cette nouvelle rixe qui a eu lieu aujourd'hui, un drame en Essonne. Un adolescent de 17 ans, Sekou, c'est son nom, est mort après avoir été poignardé devant un lycée à la sortie des cours. C'était à hier, dans le cadre d'une rixe. Bonsoir, Célia Jusfreddy, vous êtes sur place. Que sait-on précisément de ce qu'il s'est passé?
Pour le moment, ce que l'on sait, c'est que cet affrontement a eu lieu ici, devant le lycée Louis Armand, cet après-midi, aux alentours de 16h30. Une quinzaine d'individus seraient impliqués durant cette rixe. Un jeune homme âgé de 17 ans, mais qui n'était pas scolarisé dans cet établissement, a reçu un coup de couteau. Malheureusement, ce dernier a succombé à ses blessures. Pour le moment, 6 personnes sont placées en garde à vue. Alors, cette rixe, elle arrive dans un contexte assez électrique dans le département. D'après des sources locales, il y aurait une augmentation des rixes depuis une quinzaine de jours ici dans le département. Alors demain matin, les unités mobiles de sécurité de l'Académie de Versailles seront sur place afin de sécuriser l'établissement.
Merci beaucoup Célia Jusfreddy avec Eve Fournil. Guillaume Farn nous a rejoint. Bonsoir Guillaume, consultant police-justice pour BFM TV. Bonsoir Bruno Pommer.
Bonsoir.
Vous êtes ancien instructeur du RAID, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure. Et bonsoir Alexandre Touzé. Vous êtes maire de Saint-Thion, vice-président du conseil départemental de l'Essonne, en charge de la sécurité. Il y a une réunion aujourd'hui sur le sujet des rixes. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais d'abord, concernant la mort de ce jeune garçon, Sekou, 17 ans. Est-ce que vous avez ce soir plus d'informations sur l'origine de cette rixe et sur les personnes qui ont été interpellées ?
Pas précisément, mais on sait, on a dans le département, j'ai eu le directeur cabinet de la préfète deux fois la semaine dernière, on a une montée très forte des rixes. Alors on a un département qui concentre à peu près 25% des rixes nationales. C'est-à-dire des affrontements non liés à du trafic de stupéfiants, mais qui sont des affrontements tribaux entre quartiers.
Qui sont liés à quoi ?
C'est des vieilles histoires qui remontent des fois depuis 25 ans. C'est pour ça que le phénomène est très inscrit en Essonne. Des maires ont connu ça quand ils étaient au collège. Donc on a des territoires là très bien connus, Val-d'Hier, Val-de-Seine, on a Ivry-Corbeil-Essonne, on a Saint-Gervais-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, on a des territoires bien délimités où on a une réitération de ces faits sur des histoires dont on a oublié l'origine, avec la problématique, et c'est pour ça que la préfète aujourd'hui essaie de saturer l'espace public ce soir et dans les prochains jours, avec un risque de match retour à chaque fois.
Mais comment vous expliquez, vous dites c'est vieux de 25 ans, cette logique de territoire, comment vous expliquez que là il y a une recrudescence depuis quelques jours, visiblement depuis une dizaine de jours, où il y a énormément de plus en plus d'affrontements entre bandes rivales?
C'est très irrégulier, ça dépend à la fois du temps, la météo, ça peut vous paraître paradoxal, mais ils sortent plus. Ça peut être.
C'est-à-dire que parce que là, il fait beau, il y a une
recrudescence de beau temps, ils ressortent. Ça peut vous paraître stupide, mais c'est effectivement la période des vacances, parce qu'il n'y a pas le cadre scolaire qui le retient. Il y a quelques éléments comme ça qui fait qu'on a une recrudescence. Après, on en a à peu près une soixantaine par an, 230 en moyenne jeunes interpellés par an. Oui, c'est un phénomène qui est extrêmement récurrent, en plus des autres faits qu'on a, comme dans les autres départements, de stupéfiants, etc. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à Essonne, même si on le calcule, parce qu'en fait, par rapport à ce phénomène de rixe, il n'y a pas d'infraction pénale. On globalise dans tous les départements l'affrontement en bande organisée, mais dans cette qualification pénale d'affrontement en bande organisée, vous pouvez mettre des rixes, mais aussi des oppositions entre jeunes, entre stupéfiants, il y a un peu tout, il y a un mélange. Donc nous, en Essonne, on compte véritablement parce que c'est un phénomène qui, malheureusement, a tué 9 jeunes en 4 ans.
Et il y a eu une réunion aujourd'hui des maires de l'Essonne en préfecture avec la police, avec la gendarmerie sur ces questions de risques. Qu'est-ce qui en est ressorti?
À la fois, essayer de toujours être vigilant sur les territoires du rixe, parce que parfois ils bougent. Donc il y a des boucles qui relient à la fois les maires, les services jeunesse, la police, la gendarmerie, puisqu'il y a aussi des rixes en zone gendarmerie en Essonne. Donc voir si ces territoires changent pour affiner les moyens de communication, relancer la vigilance de tous, et puis concentrer les moyens sur quelques territoires, parce qu'on voit bien, même si c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui s'étend en Essonne, y compris sur des territoires en zone gendarmerie qui étaient historiquement...
Ah, donc vous notez quand même qu'il y a une extension de ce phénomène territoires, à de nouveaux territoires.
À des nouveaux territoires, notamment en zone gendarmerie, on a une zone assez localisée. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, ce qui est remonté des médiateurs scolaires qu'on a mis dans les collèges, c'est que on a de plus en plus des jeunes de 6e, 5e qui détiennent des armes blanches. Et c'est un sujet qu'il va falloir affronter très sérieusement.
Et ça, c'est nouveau.
Parce que...
Ça, dans ces phénomènes d'affrontement entre bandes, c'est quelque chose de récent, l'utilisation d'armes blanches et le rajeunissement
Le rajeunissement, moi j'étais, on avait 14-15 ans, aujourd'hui ça descend sur l'arme blanche à détention.
11-12 ans.
Oui, 11-12 ans.
11-12 ans, vous avez des gamins avec des armes blanches.
Vraiment de multiples... Il y a un texte en cours de discussion là au Sénat sur la fouille dans les collèges et dans les lycées. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin, tout en sachant que ça ne résout pas tout, parce qu'on a à peu près 60% des cas qui sont avec ce qu'on appelle des armes par destination, notamment des béquilles. Nous, on a paradoxalement beaucoup de collégiens, de lycéens qui se déplacent avec des béquilles, qui sont des armes en fait par destination.
Qui peuvent devenir des armes extrêmement dangereuses. Guillaume, je me rappelle que Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, avait pris la parole, il me semble, en février. Et il parlait de la situation, alors plus spécifiquement sur Paris, mais il parlait aussi de la proche banlieue parisienne. Et il s'était montré très inquiet. Il avait fait un constat alarmant de la situation en disant qu'il y avait une nette recrudescence effectivement de ces affrontements entre bandes rivales, qui avait un rajeunissement et qui avait une montée en puissance aussi de la violence par l'utilisation de ces armes. Alors, est-ce que c'est propre à Paris et à sa région, ou est-ce que c'est un phénomène qu'on
d'abord
ressent
sur à peu près 300 affrontements entre bandes par an en moyenne, hein, 90% c'est la région Île-de-France. Donc, et l'Essonne, c'est un tiers, hein, c'est une centaine par an sur un peu plus de 300 au niveau national. Donc vous voyez qu'il y a une concentration dans ce département spécifiquement, plus généralement sur la plaque francilienne. Maintenant, si on regarde les chiffres de façon un peu clinique, les années vraiment difficiles, c'est la sortie de Covid, hein, enfin sur les 5 dernières années. Hein, c'est vraiment 2020. De 2020-2021 sont deux très mauvaises années, sans doute parce qu'il y a peut-être un phénomène de décompensation. Comme vous le disiez, il n'y a pas que l'effet météo, mais l'effet confinement a pu aussi jouer. Et donc, les années 2020-2021 sont deux très mauvaises années sur le plan statistique. Et puis, ça s'est amélioré. Hein. Les années 2023-2024 sont relativement meilleures. Ça s'est stabilisé autour de 300. Quant au nombre de décès, en Essonne, c'est 1 à 3 par an. Alors, c'est toujours 1 à 3 de trop, mais ça reste globalement stable. Hein. Il n'y a pas d'explosion des morts. Hein. Et à quoi ça tient ? Parfois à un contexte, à l'usage d'une arme dans l'affrontement, ça peut causer des blessures qui sont d'ailleurs en baisse. Hein, quand on regarde le nombre de blessures, on est à peu près à 200, entre 200 et 300. Et après, effectivement, il y a la question du nombre de morts. Donc il n'y a pas de véritable explosion. En revanche, ce qui est vrai, c'est que depuis quelques semaines, dans le département de l'Essonne, on sentait monter des tensions. Et ce n'était pas un hasard si Frédéric Camilleri, la préfète du département, avait réuni aujourd'hui les maires et un certain nombre de partenaires. Elle ne pouvait pas savoir qu'à 16h30, 17h ce soir, il y aurait un affrontement qui causerait la mort d'un jeune homme. En revanche, elle pressentait bien que depuis quelques semaines, il y avait un contexte qui n'était pas bon. À quoi cela tient ? C'est aussi difficile à dire, mais les réseaux sociaux jouent quand même un rôle dans ces affaires. Des affrontements entre bandes rivales, depuis 5 à 10 ans et surtout depuis 5 ans, les réseaux sociaux les ont exacerbés parce que c'est à la fois un lieu de mobilisation. On va préparer l'affrontement avec des systèmes de rivalité exacerbés par les réseaux sociaux. Il y a une sorte de préchauffe, un peu d'avant-match, si vous me permettez.
Et avec la crainte du fameux match au retour où derrière on filme, on renvoie ça
sur
les réseaux sociaux.
Et donc ensuite, on rediffuse les images pour remobiliser. Et donc après, on rentre effectivement dans
une spirale. Donc ça rentre, ça fait un espèce de cercle vicieux.
C'est recrutement, documentation de l'affrontement, rediffusion des images dans la perspective de recruter à nouveau. Et vous ne sortez pas de cette surenchère avec en plus un phénomène qui est une confusion entre le virtuel et le réel, parce que dans le virtuel, on peut se dire les pires horreurs, on peut se promettre les pires choses, mais quand on se retrouve dans le monde réel armé, ça se termine par des drames. Donc le rôle des réseaux sociaux et la responsabilité des hébergeurs est aussi extrêmement forte. On ne devrait pas permettre, par exemple, que les images des affrontements soient diffusées. qui sont des images parfois extrêmement sanglantes. Il faudrait qu'elles puissent être immédiatement retirées, modérées. Et ça, malheureusement, ça n'est pas toujours le cas et ça encourage ces phénomènes-là. Donc c'est assez complexe, mais une fois encore, si on prend un peu de recul, il n'y a pas d'explosion au sens où on n'a pas un doublement, un triplement.
Et pourtant, on a quand même un discours très alarmiste des autorités. Encore une fois, je reprends Laurent Nunez, ce qu'il disait il y a quelques mois.
Mais parce que c'est
il sensibilisait l'opinion au fait que à la fois il estimait, enfin lui disait en tout cas qu'à Paris il y avait une augmentation ces derniers mois des phénomènes de bandes et effectivement un rajeunissement inquiétant et puis l'utilisation d'armes et comme vous disiez d'armes chez des très jeunes, des armes blanches.
Les armes c'est dans les trois quarts des RICS il y a de l'arme blanche.
Ouais.
Après ce qui est plus inquiétant c'est que maintenant on commence à voir, ça c'est vrai que c'est un peu nouveau, dans un tiers des cas les armes à feu. C'est vrai que c'est quelque chose de plus récent. Mais après, dans le cas particulier de Paris, ce que le préfet de police voulait surtout dire, indépendamment d'Éric, c'est qu'il avait plus de mineurs, toutes choses égales par ailleurs, mis en cause dans des affaires de violence avec armes. Toute affaire confondue. C'est pas que la RICS, c'est ce que disait monsieur. Hein. C'est-à-dire que derrière RICS, on peut mettre beaucoup de réalités. En fait, c'est la violence avec armes. Ça peut être la violence crapuleuse parce qu'on veut voler un téléphone portable. Ça peut être un règlement de compte. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent aller dans la règle. C'est pas forcément en bande organisée. Il n'y a pas toujours des bandes, d'ailleurs.
Bruno Pomard, on voit que c'est un phénomène quand même qui est assez complexe. On a du mal à mettre des explications sur les raisons de ces affrontements entre bandes. Vous évoquiez tout à l'heure des affrontements logiques de territoire qui datent parfois, qui remontent parfois il y a 25 ans. Et on a du mal à se dire qu'en 2025, des gamins de 6e, 5e, pour reprendre ce que vous étiez en train de dire, puissent rentrer encore une fois dans une logique territoriale sur des histoires vieilles d'il y a un quart de siècle. Il n'y a pas de logique de business, de drogue derrière.
Il n'y a rien d'étonnant. Moi, ça fait 35 ans que je travaille dans l'associatif. Je travaillais pendant 10 ans sur les quartiers de Corbeil-Essonne, les Tarterets, les Pyramides et la Grande Borne. Et ce sujet-là a toujours existé. 95-2005, moi j'ai passé 10 ans dans les quartiers, on avait toujours ces problèmes d'affrontement entre bandes rivales, entre Corbeil, Évry, Grigny, Grande-Borne, etc. Ça a toujours existé. La seule différence qu'il y a maintenant, c'est qu'effectivement, les couteaux et les armes blanches sont beaucoup plus présentes. Et ça pose une véritable question. Mais le problème des affrontements entre bandes a toujours existé. Oui. Si on veut faire un peu d'histoire, on va chercher les blousons noirs. Mais bon, bref, revenons sur le sujet.
Attention
quand même. Ouais. Et moi, je m'en suis rendu compte. Moi, je travaille avec, vous savez, j'ai près de 300 policiers qui travaillent bénévolement sur mon association. On fait des séjours de rupture avec des jeunes difficiles sur tout un tas de secteurs. On se rend compte effectivement qu'il y a une espèce de libération totale de la violence de la part des jeunes. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune conscience. Alors, comme disait Guillaume, effectivement, les réseaux sociaux ne nous aident pas, ça c'est clair. Et c'est à nous d'essayer de trouver des réponses. Et les réponses, on ne va pas que les trouver. Effectivement, Gérald Darmanin a fait des propositions importantes et c'est important de le signaler sur, par exemple, la comparution immédiate qui me semble essentielle et la sanction immédiate. Mais au-delà de ça, de toutes ces propositions, il faut qu'on ait un volet préventif. Vous savez que je travaille beaucoup là-dessus parce que sans ça, on n'en sortira jamais. C'est-à-dire qu'on peut mettre tout le monde en prison, mais à un moment donné, si on ne fait pas le travail de prévention et d'éducation, qui est la base de tout, hein, parce que tout ça arrive parce qu'il n'y a plus d'éducation, parce qu'il n'y a plus de famille, parce qu'il y a tout un tas de choses qui ont disparu. L'école qui démissionne par moment parce qu'elle ne peut plus faire seule. Bref,
le répressif ne peut pas tout.
Évidemment. Donc, on amène évidemment des équipes mobiles de sécurité que la région va envoyer sécuriser ces sites. On va envoyer des policiers quadriller tous les secteurs les plus sensibles, etc. Mais tout ça, il faut l'anticiper. Alors, effectivement, la préfète a fait une réunion aujourd'hui qui était un peu tard, à mon avis. Mais si tout ça avait été un peu décelé auparavant, je pense qu'on aurait pu anticiper peut-être ce.
Alors, justement, comment enrayer le phénomène? Écoutez, pour Bruno Retailleau, la faute revient à la politique pénale trop laxiste, selon lui.
Okay.
Aujourd'hui, il faut des peines courtes de prison. Dès qu'on a, par exemple, une incartade, un délit suffisamment grave, il faut des courtes peines de prison dans des prisons qui soient différenciées. Parce qu'on voit bien qu'il y a un ensauvagement des mineurs. S'il n'y a pas de sanctions aujourd'hui, il y a vraiment, pour certains mineurs, un sentiment d'impunité. Ce sentiment d'impunité, il faut le faire reculer. On ne le fera pas reculer avec de l'eau tiède. On le fera reculer précisément en changeant de politique pénale avec des courtes peines, sans doute aussi en modifiant des comparutions immédiates, en modifiant la règle de la minorité, de l'excuse de minorité, parce que sinon on n'y arrivera pas. Je pense que notre politique pénale des mineurs est trop laxiste.
Et il reprend encore une fois ce terme d'ensauvagement, Roselyne. Il l'avait déjà employé d'ailleurs pour le meurtre de la petite Louise dans un bois en Essonne.
D'abord, il faut dire que c'est question de bande, ça existe depuis toujours. Je parlais du livre de Louis Pergaud, La guerre des boutons, dont il ne faut pas voir la version édulcorée du film et lire le livre avec la violence du livre. Le livre date de 1912. L'histoire que surgiraient des phénomènes de bande dans les jeunes et des questions de territoire, oui. Ça, je crois que c'est totalement faux. Alors, une politique pénale répressive s'adressant des gamins de 11-12 ans, on a du mal à imaginer le côté préventif et même le côté curatif. C'est absurde. Alors, il faut développer une politique pénale complètement différente, avec des outils, des lieux de détention. On n'est pas du tout outillé pour faire ça dans l'immédiat. Il faut complètement revisiter la politique pénale, à la fois dans ses institutions et dans ses punitions et dans ses sanctions. Alors, franchement, il y a des questions d'éducation, certainement, de démission des parents, je ne sais pas, parce qu'ils sont bien, ils sont confrontés à bien des difficultés, des réseaux sociaux, une banalisation de la violence, une désincarnation de la violence par les réseaux sociaux, c'est-à-dire que on s'amuse, je vois les petits-enfants de mon entourage, de ma famille, qui s'amusent à tuer. Dans des jeux vidéo, la mort devient quelque chose de totalement abstrait.
Vous avez une désincarnation de la violence ?
Une désincarnation de la violence et de la mort, oui. Absolument.
Oui, ouais.
Juste, j'aimerais qu'on revienne, on va revenir sur cette politique pénale, parce qu'il y a un texte qui est examiné en ce moment au Sénat. Mais Laurent Geoffrin, juste sur ce terme d'ensauvagement,
justement,
qui a été repris, ensauvagement des mineurs, est-ce que c'est un terme qui est approprié ?
Je ne crois pas. Pour les personnes concernées, oui, évidemment. Mais le nombre de mineurs mis en cause par an pour des faits, des crimes, quoi, des choses très graves, c'est 1500, je crois. C'est pas une
histoire. 1427. Bon, ouais,
c'est pas,
vous êtes sûr que c'est pas 1428 ?
Non. C'est pas une...
La précision de Guillaume Pardin.
C'est pas une génération entière.
Ouais, ouais.
C'est sûr. Et j'ai regardé un peu les chiffres. Ça a augmenté, le nombre de mineurs mis en cause dans les crimes violents. Ça a augmenté, donc il y a un problème, il y a un vrai problème.
Ils sont instrumentalisés.
Et deuxièmement, mais la délinquance des mineurs en moyenne, elle a baissé. C'est complètement contradictoire avec ce que dit Retailleau, parce que si le crime symbolise le comportement de tout le monde, c'est ce qui veut dire quand on dit que la France est ensauvagée ou que la jeunesse est ensauvagée, ça ne devrait pas être comme ça. Les autres crimes aussi, enfin, les autres délits aussi devraient augmenter. Alors, ils ont diminué. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il dit. Là, à mon avis, là où il a raison sur un point, c'est la comparution rapide.
Oui.
Quand on attend un an, deux ans avant de sanctionner, ça c'est une très mauvaise idée parce que ça déconnecte complètement la sanction.
Parce que justement là-dessus, sur la comparution immédiate pour les mineurs, je lisais ce qu'expliquent certains éducateurs. Guillaume, oui. En fait, ils disent voilà, actuellement, ils passent la première fois devant un juge pour trancher leur culpabilité, puis le jeune est convoqué plusieurs mois plus tard pour décider ensuite de la sanction. Et entre les deux, il y a un suivi par les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Oui. Et ce que disent les éducateurs, c'est qu'en fait, raccourcir les délais, ça empêche à ces jeunes de montrer autre chose et que le principe de la justice des enfants, des mineurs, repose sur un principe d'éducabilité des plus jeunes.
Oui, ça j'entends. Après, ce que j'observe aussi, c'est que les délais sont quand même souvent déraisonnables. Si vous êtes jugé majeur pour des faits que vous avez commis mineurs et qu'entre-temps, votre situation personnelle a évolué, quelle est la valeur de la sanction ? Elle est complètement à contre-temps, elle peut même être contre-productive, puisque si vous êtes jugé à 18 ou 19 ans pour des faits que vous avez commis à 17, ce qui peut arriver encore parfois dans certaines affaires, votre vie personnelle peut s'être stabilisée, vous pouvez retrouver un emploi, vous pouvez avoir avancé dans la vie. Et on va vous ramener à une affaire antérieure pour laquelle il faut évidemment être jugé. Mais vous êtes complètement en arythmie quelque part. Et ça c'est pas acceptable. Après, ce que j'entends aussi dans les propos de Bruno Retailleau, c'est un copier-coller du programme du Rassemblement National sur la suppression de l'excuse de minorité, dont il faut rappeler que entre 16 et 18 ans, si vous comparaissez devant une cour d'assises pour mineurs, pour des crimes, notamment pour un homicide, ce sont des jurés tirés au sort qui, au nom du peuple français, vont décider ou pas de la lever. Donc pourquoi enlever au peuple ce droit ? C'est lui qui apprécie, au regard des circonstances de l'affaire, que nous ne connaissons pas ici, parce qu'il y a autant d'affaires que de jugements. Et donc, pourquoi enlever cette représentation qui est démocratiquement pure ? C'est ça qui est complètement paradoxal pour quelqu'un qui se dit proche du peuple, etc.
On verra ce qui ressortira du débat parlementaire. aussi, parce que le texte, en l'occurrence, qui propose toutes ces mesures, a été en partie adouci en commission des lois. Là, il est examiné au Sénat, donc on verra si ces mesures vont revenir ou non.
Et d'ailleurs, on peut aller en prison à partir de 13 ans. On peut aussi le signaler, ça, avec des structures.
Le texte est vidé de sa substance.
C'est ça, il a été vidé de sa substance. Mais alors, est-ce que toutes ces mesures-là ne vont pas revenir au Sénat aussi?
Oui, mais elles vont revenir, mais elles vont disparaître, puisque ouais. c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Ce que je voulais dire, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est désespérant. Je veux dire, le débat législatif dans notre pays est absolument désespérant. Ce que disait Laurent sur le fait que les peines sont prononcées, parce que vous savez, les peines pour les mineurs sont prononcées en deux temps.
C'est ça.
Et on l'a vu d'ailleurs dans l'affaire de l'assassinat du gamin dans le 14e arrondissement, vous savez, qui s'est volé son portable. Il y avait eu un défaut évident de suivi des deux adolescents coupables de ce crime, puisqu'ils avaient interdiction de se rencontrer. Et on a vu que rien n'avait été fait. Et en raccourcissant probablement le temps, peut-être qu'on aurait pu éviter cela. Mais c'est surtout qu'il y a un caractère d'exemplarité qui est montré par des études, moi je n'invente rien, et qui est d'ailleurs assez probant quand on regarde ce qui se passe en Scandinavie notamment, où ils ont raccourci les peines,
délais entre le jugement et la peine.
C'est ça qui est. Mais alors ce qui est désespérant justement, c'est que ces sujets-là, dont on parle depuis 10, 15, 20 ans, moi, attendez, je suis journaliste depuis, je ne vais pas vous dire depuis combien de temps, mais on passe son temps à écrire, à discourir, à enquêter sur ces sujets, et rien, mais strictement rien n'avance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous ramène aux ordonnances de 1945, dont il faut souligner qu'elles ont été 50 fois réformées.
Peut-être pas 50 fois, mais bien une vingtaine. Parce qu'on
est moins 40 fois. Et c'est ça qui est exaspérant dans ce pays.
Oui, mais alors sur la politique répressive, typiquement, alors je veux bien, il y a l'idée de raccourcir les délais, et puis ce que dit Bruno Retailleau aussi, c'est qu'il y a un moment donné, il faut une sanction, et il dit qu'il faut des petites peines, courtes.
Le choc carcéral, ce qu'on appelle la théorie du choc carcéral.
Mais est-ce que la prison, elle fait peur à ses enfants? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace?
Non, le choc carcéral, ça ne marche pas. C'est exactement ce que vient de dire Roselyne. On en fait effectivement, c'est un fait d'armes, c'est un fait glorieux. Et les études sociologiques montre que le choc carcéral ne fonctionne pas. En revanche, ce qui fonctionne, c'est le dépaysement. J'ose pas dire déportation ou délocalisation, mais c'est le fait de vous déplacer. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un quartier, vous êtes
on vous dit d'aller habiter ailleurs.
On vous met autre part.
D'ailleurs, dans les mesures, ça
donne de très bons résultats, mais c'est très complexe à mettre en œuvre et parfois assez coûteux.
Mais il y a aussi une chose qu'il faut ajouter, c'est que certes, si cette délinquance des mineurs n'augmente pas, elle s'est considérablement aggravé.
Oui, le nombre de crimes augmente.
Oui. Et de plus en plus jeune.
Alexandre, je ne vous sens pas convaincu.
Alors, pas surtout, parce que sur les faits, il faut savoir que dans un département de l'Essonne, il y a tellement de faits que vous avez un seuil de tolérance poursuivre qui s'élève de plus en plus. Et quand on regarde, par exemple, les enquêtes de victimisation de l'éducation nationale sur ce qui se passe dès les écoles primaires, ce que les enfants vivent en termes de micro-violences dans les collèges, dans les lycées, on voit qu'il y a un phénomène qui se développe, il ne faut pas fermé. Et on n'a pas de réponse pénale. On a de plus en plus, parce qu'on a un manque de magistrats et un manque de policiers. On a perdu 100 policiers, en 4 ans dans l'Essonne, alors qu'on est déjà... on a de plus
donc
en plus...
Donc ce n'est pas un problème d'arsenal judiciaire, c'est un problème de moyens.
On a de plus en plus de correctionnalisation de faits qui mériteraient de passer aux assises, parce que manque de personnel pour... Donc moi, le FN, il n'y a pas de nouveaux trucs, etc. On a un seuil de tolérance qui s'élève. On a des choses qui se voit dès l'école primaire et qui ne sont pas traités.
Si je vous comprends bien, on a les outils judiciaires, on n'y a pas forcément besoin de changer la loi, mais c'est une question de moyens.
On n'a pas de progressivité, on n'a pas de réponse. Pour beaucoup de faits, ça va être un stage par la protection judiciaire de la jeunesse. Non mais on rigole. Je veux dire, il faut que ces jeunes, on les retire à un moment, il faut qu'on leur donne un cadre. Je veux dire, et donc ça va, et qu'on ne laisse pas, et c'est malheureux, parce qu'à un moment, ils vont être sanctionnés, mais ils vont être sanctionnés au bout de tout un parcours délinquant, où là, on va leur mettre une peine énorme. Est-ce qu'on pourrait très rapidement avoir une réponse et pas attendre 10 mois, quoi. Et pas un stage ou la PJJ, c'est pas l'autre.
Ce qui éviterait beaucoup de récidives.
En un mot, Bruno ?
Oui, en un mot, tout simplement, c'est qu'encore une fois, il faut prendre les choses à la base. Et je veux dire, si on veut éviter, parce qu'ils ne sont pas nombreux, ces jeunes, en fait, qu'on regarde bien, sur le nombre de gamins qu'on a à travers toute la France, c'est qu'il faut les prendre une bonne fois en charge. Et surtout, encore une fois, travailler le CIV, le fait actuellement avec, comment elle s'appelle, Juliette Madel, sur le travail de prévention qui a mené sur le fond. Le problème, c'est que le politique et le fond, ça ne les intéresse pas. Voilà, on préfère annoncer qu'on va incarcérer, etc. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Il y a des jeunes qui le méritent, il n'y a pas de souci. Mais si on ne travaille pas en amont la prévention et l'éducation, c'est peine perdue, on se retrouvera sur ce plateau d'après.
Le répressif ne suffira pas. Merci Bruno Pomard, merci Guillaume Fard et merci Alexandre Touzet d'avoir été nos invités ce soir.